yang suaranya nyaring. Jangan suka kung tiang-tiang kucing, sudah menerkam sebelumnya berunding. Aksi kucing membuat berselisihan, salah-salah dari kawan jadi lawan. Salah paham bung karena aksi kucing, urusan kecil bisa jadi meruncing. Sebelumnya berunding, aksi kucing membuat perselisihan. Salah-salah dari kawan jadi lawan. Salah paham bung karena aksi kucing, urusan kecil bisa jadi meruncing. Salah-salah dari kawan jadi lawan. Salah paham bung karena aksi kucing, urusan kecil bisa jadi meruncing.
Oi, oi, oi.
Bonjour et puis bienvenue sur Radio Sterni, on fait une petite émission. Et j'entends pas très beaucoup le son en fait, du coup ça m'intrigue un peu. Donc on va faire une émission sur l'Indonésie. C'est ça ?
Bah oui.
Et j'espère qu'on entend bien. Est-ce que... Ouais, bon, on fera un check après. donc là, on a écouté quoi ? On va voir aussi une playlist de musique indonésienne, du coup.
Ouais, on a écouté une chanson sur le chat timide, qui s'appelle Aksi Kucing. Bah, voilà, c'était ça.
Et donc, on va parler de quoi ? Enfin, sur des luttes... Enfin, c'est juste peut-être pour résumer vite fait.
Pour résumer, donc on va parler un peu de qui se passe en Indonésie, un peu de la lutte des paysans qui luttent pour sa terre, pour sa dignité et tout ça. Et bon, bref, je vais peut-être expliquer un peu. A priori, je vais expliquer un peu de qui se passe. Pour les gens qui ne connaissent pas vraiment l'Indonésie, je vais expliquer un peu des histoires, un peu de le contexte. Et après, je vais parler d'une communauté côtière de l'île de Java, qui s'appelle Kulonprogo, et de la lutte là-bas.
Parce qu'ils luttent contre...
Ouais, c'est son lutte contre la mine de fer. Et après, je vais parler un peu des mouvements, de ce qui s'est essayé de faire là-bas, le niveau de construire un mouvement un peu plus large, un mouvement autonome paysan. Donc, voilà.
Et du coup, pour, avant de commencer cette émission vraiment, on va mettre une petite musique.
Oui.
Alors c'est... Est-ce que
on va mettre un peu de musique de musique Sunda, qui c'est que c'est musique de Java aussi. Il s'appelle Kachapi Suling. Thank you.
Donc, on va peut-être du coup d'abord parler de l'Indonésie.
Bon, peut-être on peut expliquer un peu ce que c'est l'Indonésie. C'est un archipel assez large. C'est 17 000 îles entre Australie et Malaisie. C'est un pays énorme. Je pense d'une frontière à l'autre frontière, c'est presque 5000 km. Donc, on espace de diversité énorme. Il y a culturellement vraiment complexe. Il y a des 800, plus que 800 langues différentes. Il y a donc de chaque île à l'autre île, de village en village, et on peut trouver des langues différentes. Même il y a une langue qui s'est utilisée pour communiquer avec tout, ça s'appelle indonésien. Et c'est une langue artificielle qui s'était construite pour communiquer dans le temps des colonies, quand l'Indonésie c'était une colonie hollandaise.
Et donc ils ont créé cette langue pour ça.
Ouais, c'est une langue qui s'est basée en malaisien. Bah, c'est évolué un peu artificiellement pour pouvoir communiquer dans toutes les îles de l'archipel. Et bon, comme peut-être un peu de dire un peu de histoire, donc comme on a été dit, c'était une colonie hollandaise, 351. Sa immense diversité s'était enfermée dans une colonie. Donc, l'idée de l'Indonésie comme une nation, comme un pays, c'était pas existant avant du temps colonial. C'était utilisé ce sentiment pour lutte contre les forces coloniales. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était une guerre d'indépendance. Et c'est gagné pour l'Indonésie. Donc, c'était pris tout le territoire qui fait l'Indonésie maintenant, sauf le territoire de Papouasie, que c'était pris en fait annexé forcément dans en 70 non 60 de dernier siècle. Et bon, peut-être on peut parler un peu de ce qui se passait de les trucs un peu plus importants dans l'histoire récent. Donc,
des problèmes dans le studio.
Ouais. Donc, l'Indonésie, ça a gagné sa indépendance dans les ans 40, la fin des ans 40. Et la première présidente, c'était une personne qui s'appelait Soekarno, et c'était une personne vraiment importante pour beaucoup des Indonésiens, l'icône, la personne qui s'était connue comme le bon, tout comme ça. Que, bon, on n'est pas peut-être vraiment d'accord avec ça. Les Papouasiens du tout. Par exemple, le truc de Papouasie, que c'est pas trop connu, la Papouasie de l'Ouest, c'est pas trop connu maintenant. Bah, c'est un territoire qui est effectivement en occupation militaire depuis des ans 60. Et c'était forcément annexé c'est utilisé en référendum pour avoir la possibilité de forcer 1000 personnes pour dire que oui, on veut faire le parti d'Indonésie. Après, avant, c'était les militaires indonésiens s'est installé là-bas avec l'intelligence et s'est préparé la situation pour faire ce référendum. Donc, depuis le début de. Depuis le début de. Comme. Papouasie fait de part de l'Indonésie, ça montait en guérilla dans la jungle pour lutter pour la libération. Et ça s'est pas terminé jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un territoire occupé. C'est un peu histoire différente. Bah, je vais parler un peu plus de ce qui se passe en territoire indonésien, que ça veut dire rien en fait. C'est quoi l'Indonésie? C'est un truc énorme. C'est un peu artificiel aussi, la création de l'Indonésie. Bah, après, bon, peut-être on peut retourner un peu de l'histoire. Donc, il faut comprendre l'histoire indonésienne pour le temps de guerre froide. C'était le temps où le monde s'était divisé pour le bloc soviétique et qui le soutient, et pour le bloc américain. Donc, c'était une guerre entre les deux empires. Le monde ne s'est pas échappé de ça. Donc, en Indonésie non plus, en principe, Sukarno, ça jouait un peu les deux empires. Donc, c'était un peu entre. Mis son cou entre deux chaises. Bref, donc, c'est jouer un peu de bloc soviétique, c'est jouer un peu de bloc américain. Et de ce moment, en Indonésie, il y avait un parti communiste plus grand du monde avant Chine. Donc c'était juste la Chine qui avait un parti communiste plus large qu'Indonésie. Et c'était 3 millions de membres. Donc Sukarno, c'était soutenu pour le parti communiste. C'était pas, il n'a jamais fait un lien en direct, jamais dit que c'était un communiste, parce que c'était peut-être politiquement pas bonne idée de ce moment. Donc il essayait de faire un bloc pas allié. Avec les autres pays du monde, c'était, je pense, 8 pays de ce moment qui se trouvent dans sa bloc pas allié. C'était pas vraiment sa choix, et de force, des deux empires jouaient un peu
de le prendre de leur côté.
Oui, de leur côté, et bon, mais finalement, ça va faire trop peur à l'Amérique. Donc ça, dans l'an 65, ça montait la tension, et ça fait une situation où ça avoir une émergence de nouveau force qui venait de la droite, que c'était un peu mélangé en militaire avec un peu de trucs fondamentalistes, et c'était utilisé pour les États-Unis pour entrer le nouveau ordre. Et donc la situation, c'était à certains moments, les communistes s'étaient suspendus pour faire de s'armer et de préparer le coup d'État. Et donc c'était six des généraux qui mystérieusement s'étaient tués. Et il y a beaucoup de théories qui tuaient des généraux. Bah, finalement, c'était, la faute s'était mise pour les communistes. Donc, ça utilisait ça pour monter une énorme chasse aux sorcières et d'utiliser les paramilitaires pour effectivement faire un plus grand génocide en histoire indonésie. Donc, entre 500 000 jusqu'à 3 millions de personnes s'étaient tuées pendant un an. C'était pas fait directement pour les militaires, c'était fait pour pas les militaires et avec la population. Et donc c'est un truc énorme. Et c'est jamais personne s'était puni pour ça. Donc c'est une grande impunité qui fait la base de le pays maintenant. Parce que tout le monde qui s'était impliqué dans ce massacre, c'est maintenant au pouvoir. C'est maintenant au gouvernement, ça, dans la position haute, dans le pouvoir, en fait. Donc ça... Et ça, c'était un trait de Suharto, d'un dictateur. C'était une personne qui... C'était la tête de sa opération et ça donnait la possibilité de contrôler les pays pour les blocs des États-Unis. En fait, ça a essayé de faire un peu la même chose en Philippines, un peu partout. On peut voir dans ce temps du monde, c'était vraiment... beaucoup de dictateurs qui émergent parce que c'était beaucoup moins cher et beaucoup plus facile pour juste payer un dictateur qui va nettoyer des pays des communistes qui entraient avec militaires, par exemple.
Et donc ce dictateur-là, il est resté, il est toujours au pouvoir ou il est resté en place jusqu'à
lui il restait 34 ans au pouvoir, en 32, en 34, jusqu'à à fond de 90e. Juste pour expliquer peut-être ce qui se passait dans le temps de dictature, parce que par exemple, il y a de ces moments de Order Baru, ou le Nouvel Ordre, que c'est la... c'est ça comme s'appelle le ton de dictature. C'était une dictature fasciste, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de moyens de l'organiser, les mouvements sociaux ou lesquels, de chaque mouvement, c'était le ton de les gens, c'était pas avec le pouvoir de s'exprimer, de chercher des solutions pour eux-mêmes. Donc, et par exemple, il y a beaucoup de projets qui s'étaient faits avec prise de terre, prise de terrain. Il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui se peuvent battre contre ça. Donc, il n'y a pas vraiment la moyenne de se bouger contre l'apparatus policier, l'intelligence. Il y a beaucoup de plantations qui s'étaient faites pour le commerce des gouvernements, pour le commerce des militaires. Donc, c'était. Par exemple, il y a beaucoup de palmiers, de plantations de palmiers des olives, d'huile. Que c'était fait à ce moment et aussi l'autre plantation de sucre, aussi de l'autre commerce de l'autre mine que c'était fait à ce moment à cause des populations.
À défaut des populations, quoi. Ouais. Sans le...
sans leur accord.
Sans leur accord, et enfin, bah, leur... surtout c'est contre, contre leur, leur bien, quoi. Mm.
Et, mais je voulais, il n'y avait pas aussi un truc de déplacement de population?
Oui. Oui, il y a une des choses qui se passait, c'était un programme de transmigration. Ça s'appelle transmigration, ça veut dire de mélanger les gens de l'archipel. Donc ça bougeait beaucoup de monde d'une île à l'autre, pour, aussi pour prévenir la tendance séparatiste qui s'était plus en plus claire dans l'archipel. Donc si tu vois la complexité ethnique de tous les coins d'Indonésie, c'est assez facile d'imaginer qu'il y a des tendances séparatistes. Après, il y a aussi la situation où tout le développement, tout l'argent s'est concentré en Java, en l'île de Java. Et toutes les autres îles sont un peu comme... comme
des colonies de Java,
des colonies de Java, de, juste comme ressource pour, mm. pour prendre des ressources, des
matières premières,
les ce qu'il y a dans la terre, les ce qu'il y a dans sous la terre, ou les plantations ou pas, bah finalement tout le pouvoir et tout l'argent va à Java. Donc il y a aussi beaucoup de ressentiment contre les gens de Java qui sont un peu partout, parce que c'est aussi une île avec une population plus haute de toutes les îles.
La classe sociale est plus haute, enfin, plus riche.
C'est pas ça non plus. Il y a beaucoup de gens vraiment pauvres. Bah, il y a beaucoup de pouvoirs qui sont concentrés, par exemple, en area de Jakarta, là-bas. Donc, il y a un peu de riches partout, un peu de riches qui sont connectés avec des gouvernements, mais c'est pas un grand pourcentage, en fait. Il y a des 270 millions des habitants. Je sais pas combien ça fait de riches, quoi. Pas beaucoup, hein. Bon, je sais pas, peut-être je vais parler justement de la sensation, de la tendance séparatiste, parce qu'après Papoua, il y a aussi des autres endroits qui font ça en surgence, qui se battent pour se séparer de l'Indonésie, pour sortir d'Indonésie. Bah, peut-être maintenant, on va écouter un petit morceau de Crunchon Chaos. Ouais, c'est pas vraiment punk, bah,
c'est
c'est pas loin. Hein. Donc, voilà.
Kaya suku Indian, jalanannya ketat, banyak spek di gelang, katanya biar kelihatan sangat. Tapi kalau udah dengar dangdutan, tapi kalau udah lihat goyangan, palanya, tangannya, kakinya, pipunya, enjot enjot. Pakai sepatu boot,
Donc on était en train de parler donc de l'Indonésie, parce qu'on fait donc une émission sur les luttes là-bas, et donc on a commencé par un petit topo sur la situation en Indonésie. Et donc dans les c'était dans les années du coup 70 qui à 80 qui avait des mouvements séparatistes dans différents endroits de ce qui s'appelait enfin ce qui s'appelle toujours l'Indonésie. Bon, si j'ai bien compris.
Ouais, par exemple bon, il y a dans les ans 75, ça a émergence de groupes armés en Aceh et qui a pris des armes pour se battre, pour se séparer de l'Indonésie. C'est une région qui s'était connectée avec du monde d'islam beaucoup avant l'Indonésie et sa identité c'est vraiment différent. C'était un endroit que c'était jamais vraiment jamais tout le territoire de Aceh c'était pris pour les Hollandais et c'était vraiment difficile de gérer sa région pour les Hollandais et après pour les Indonésiens non plus c'était pas facile jusqu'à derniers ans de naissance.
J'ai été un peu... Il y a des choses qui se passent dans le studio, du coup. Excuse-moi.
Bon, bref, ça, par exemple, juste pour donner des exemples de la lutte séparatiste, il y a des Malukas, il y a des Ambon qui aussi il n'y a pas vraiment de sentiment qui fait partie d'Indonésie, il y a des gens qui sont ethniquement mélanésiens, donc sont dans le même groupe ethnique avec des Papouasies, avec des aborigines. Ils sont là-bas, ça fait longtemps qu'il y a une lutte pour pouvoir avoir sa propre espace et pour gérer sa propre espace, c'est vraiment réprimé. Donc, par exemple, en Papouasie, au Maluku, si tu as des banderoles nationales de Maluku au Papouasie, tu peux prendre 15 ans fermé, prison fermée. Il y a des gens qui font ça, qui sont dans prison juste pour avoir des banderoles. Donc,
et donc ces luttes-là, elles sont toujours présentes. Enfin, c'est toujours des choses qui.
Ouais, ça change l'intensité, ça change un peu. Bah, sont tout le temps présents. Après, il y a 75, il y a l'invasion de Timor. Donc, Indonésie, ça a pris l'autre province, comme on dit. Que c'était avant la moitié de l'île coloniée pour le Portugais. Dans l'an 1974, Salazar tombait en Portugal, ça a libéré tout des colonies portugaises. Donc, il y a laisser Timor son, dans le vacuum de pouvoir. Il y a un petit de ce moment, il y a une petite guerre civile entre les Timorens pour prendre le pouvoir. Et finalement, ça tombe à deux mains de marxistes. Donc, c'était une menace d'un pays, nouveau pays marxiste dans le contexte des guerres froides entre l'archipel indonésien avec beaucoup de pétrole, pétrolium. Donc, c'était assez logique qu'il y a l'Indonésie qui va entrer. Donc, c'était une invasion, même c'était pas une invasion, c'était juste les gens de Timor qui veulent faire partie de l'Indonésie. C'était un grand mensonge. C'était une invasion brutale qui durait 25 ans. L'occupation militaire avec tortue et tué avec un guérilla dans les forêts. Donc, c'était vraiment une bataille David contre Goliath pendant 25 ans.
Et du coup, ça fait toujours partie de l'Indonésie maintenant?
Non, ça libérait à fond de dictature. On peut parler de ça juste après.
Ok.
Juste pour terminer, c'était de la case de Timor, la casus de Timor, c'est vraiment l'Indonésien, ça fait un pacte avec des Australiens pour prendre le pétrole moitié à moitié. Et comme ça, l'Australie regardait pas comme Indonésien entre les Timor. Et même cinq journalistes australiens c'était sous la frontière à ce moment pour reporter ce qui se passe à la frontière. Donc ça sacrifiait cinq journalistes, c'était tué.
Ah oui.
De ce moment pour pas laisser l'information circuler.
Okay.
Que c'était invasion, c'était pas un acte de volontairement fait part de l'Indonésie. Et ça durait, c'était vraiment une occupation brutale, plus obscure de l'histoire de sa petite coin.
Mm-hmm.
Et après, donc, dans 70 ans, il y a pas mal de choses qui se passaient un peu partout. Après, bah, ça, donc, plus ou moins, il y a un peu de guerre partout. Bah, c'était pas... je sais pas, c'était pas mis en danger l'existence ou le fonctionnement de l'empire indonésien de ce moment. Après 90 ans, la situation s'est changée en fait avec la crise. Il y avait une crise en Asie, ça commence à Hong Kong à 97. Avec les spéculations, il y a quelques banques qui sont tombées. Et après, il y a pris quelques économies de toute l'Asie sud-est. Donc, il y a des économies qui sont tombées avec des banques, avec des spéculations. Et l'Indonésie, c'était un exemple de l'économie que d'un jour à lendemain le roupie qui c'est un roupia qui c'est un argent indonésien ça tombait 10 fois et comme ça les gens qui étaient déjà pauvres qui étaient déjà
difficile de d'assurer leur existence
ils peuvent pas
épargner de là non.
Moi, je sais pas comment on dit
peut-être
ça,
tu peux
fait,
dire en anglais.
They could not take it anymore.
Ils pouvaient plus accepter.
Ouais.
Ça, ils pouvaient plus le.
Donc il y a de ce moment où il y a un peu le mouvement d'étudiants que ça a commencé depuis quelques ans vraiment réprimé, bah, a pris des têtes de l'opposition contre la dictature et s'est lancé en offensive. Il y a un fou partout dans l'Indonésie. Et effectivement, en 1998, la dictature s'est tombée. Donc, il y a des. Suharto, il faut laisser son pouvoir. Il faut sortir du gouvernement. Il n'y a pas l'autre option. Donc, Suharto a laissé son
poste, son gouvernement.
Son poste et a pogné. Le prochain président.
Mm-hmm.
Donc, de ce moment, par exemple, il y a pas mal de slogans, pas mal de gens qui demandent l'accès à la terre.
Mm-hmm.
Et parce qu'avant, le temps de dictature, la terre s'était justement pris, il n'y a pas vraiment moyen de résister. Et ce moment, le nouveau président, il faut promettre quelque chose. Donc, promettre, par exemple, un référendum au Timor, parce que c'était aussi le temps après des massacres. Après massacres, il y a beaucoup de massacres qui se passaient au Timor jusqu'avant. Il y a des documentations qui circulaient, donc la pression s'est montée un peu. Et aussi, des étudiants ont pris la cause de Timor, de libération de Timor, dans son agenda. Donc, comme dictature s'est tombée, il faut le nouveau gouvernement, le nouveau président, il faut compromettre le référendum au Timor.
Mm-hmm.
C'était un référendum du sang, en fait, parce que finalement... je parle un peu trop de Timor, je pense que c'est important aussi parce que la manière en qui se passe les choses au Timor, c'est la manière qui se passe un peu partout. Donc, le moment de référendum, il y a beaucoup de paramilitaires qui étaient dans Timor pour faire des menaces. Si les gens rejoignent, que ça va faire une vengeance. Il y a beaucoup de monde qui s'est tué dans le process. Après le référendum, où toute la population qui votait pour presque tout pour se séparer de Timor, après ça, il y a une vraie vengeance des parties des paramilitaires. Donc il y a des massacres partout. Il y a juste tué personne qui peut. Tuer tous et toutes qui peut avoir dans son
entourage ou dans ses proches.
Ouais.
Ou...
Et ça explosait toutes les mines, ça a pris tous les câbles, ça a vraiment détruit tout qui se peut détruire de ce moment, juste parce qu'il faut sortir de l'Indonésie. Donc c'était je sais pas si on peut dire victoire. Dans le bain de sang, en fait.
Mm.
C'était vraiment la manière de faire des choses. Et ça référendum s'était fait. Le nouveau président, il faut compromettre le référendum. Ça s'était fait. C'était fait en 99. Et aussi la réforme agraire s'était fait aussi. C'est-à-dire que c'est passé la loi qui dit que les paysans sont les primaires qu'elle a en droit pour cultiver. Donc, théoriquement, tout le terrain, il faut retourner à des paysans. Effectivement, il y a des plantations déjà en dessous de sa terrain. Donc, par exemple, il y a beaucoup de plantations de l'huile de palme. Il y a du monde de commerce, de gens de riches qui sont des militaires ou des familles de militaires. C'est la même classe. Donc, il dit que bon, il y a sa loi qui donnait la terre à les paysans qu'il faut les cultiver, bah, après, il y a des ressources qui sont des gouvernes. Donc, si, par exemple, il y a des gens qui... il y a des commerces qui vont dire « Bon, la terre, c'est à vous. Bah, les arbres, c'est à nous. Donc, si vous voulez toucher notre arbre, on va... »
Vous tuer?
Oui.
Non.
Oui. Donc, il y a beaucoup de morts, des conflits de terrain. Il y a beaucoup de conflits de terrain partout. En fait, ça, c'est jamais à régler, ça problème. Donc, c'était juste... moi, c'est comme tous les jours, non? Ça change le gouvernement, ça pas changé beaucoup. Ce qui changeait, c'est la liberté des expressions. Donc, il y a un moyen de construire des mouvements sociaux. Des communistes sont perdus, sont déjà marqués comme les perdus. C'est un grand stigma. Et pour utiliser, par exemple, le mot communiste, c'est comme utiliser le mot sale. C'est comme décrit quelques bêtes que c'est vraiment inhumain, que torturé, que tué de gens, une bête qui boit du sang. Tu peux utiliser PKI, tu peux dire tu es comme PKI, tu es communiste. Et c'est vraiment un grand stigma. C'est jamais reconnu, réconcilié des millions de personnes qui s'étaient tuées. Et c'est pas possible par exemple de l'enterrer dans le village de faire des funérailles ça stigma reste des tombes de dictature. Donc le mouvement, il y a des ONG qui a pris des parts un peu de commence d'exister. Avant, il n'y a rien du tout. Maintenant, il y a un peu plus. Aussi, le mouvement du punk, le mouvement anarchiste, il y a des premiers collectifs, des premiers groupes qui commencent à exister en Indonésie. Bon, peut-être...
Petite
musique. C'est un groupe hip-hop anarchiste, en fait. Ça s'appelle Homicide.
Tentang dunia yang homogen. Kami jawab tantangan kelas dengan urusan kalah pembutan. Bagi para sponsor pembangunan atas semen dua akan kelapan. Dengan proses yang bernapas dalam lubangan bangunan yang kalian rancang. Di bawah barisan lisan yang kalian pacang. Bagi para pagan yang batin menyusui jauh-jauh. Pada situs yang menampung gunungan pahala kami setara. Segelap hitam para pemuni rakyat yang kalian ciptakan. Bersama mimpi-mimpi buruk yang kalian kirim lewat ikatan. Ikatan kasta jurah pemisah yang kalian sebut takdir. Yang kami sumpah semua menuntut lebih cepat dari hitungan jam pasir. Kalian citrakan kasir sebagai penanda datangnya surga di muka bumi. Berlindung di balik kuasa kata stabilitas dan konstitusi. Pelatih para profan di bawah serangan lalu kami bersumpah. Lebih baik mati terlupakan daripada selamanya dikenang orang karena menyerang. Yo, urusan rakyat rakyat kami sam. Urusan rakyat rakyat kami sam. Terluka semikian rupa sehingga bernasar untuk hidup tanpa hambatan paduka. Murka tua Jawa yang babi buta mencari kurka. Dari dupa kota suara demokrasi dasar muka. Karena Bima ialah pusaka perusak tameng para pengecut yang bersuaka. Di balik
sampai setan angka dan pujian para prasangka. Aku adalah sumber petaka bagi semua Tuhan dan Iblis yang membunuh dunia di atas undang-undang dan fakta. Bagi para arsitek dunia, pasar kutuhan, para idiot, CID, berkas bank yang audit, invasi kultur MTV dan Coca-Cola. Sejak mulut fight mereka, sudah sefasis pedang dan parang anak IPK. Yo, di hadapan ratusan barisan-isan, ribuan-ribuan dipik yang kontrol intelijen berpanjangan tangan. Neo-imperialis yang bersiap tangan pasar dan hutang. Aku berdiri tegak dengan urusan pelatih kalah profan, berarti hal berhabisan. Aku permanen bernubuat layak ribuan riba zakot bagi semua bibo yang bersapa pasot. Hingga aslat keberkaran, hingga ikat kepala juru tamat, hingga kepala sisi sinar, berpulang kepada para jasad. Marley malang ke horizon, Monroe tuku sepatnya di atas horizon. Konon yang melulat tak suah antiknostikon. Riba ini bukan lahat, lahat batu penerang. Keyakinan para Lenin yang dilanda kemiskinan, kemiskinan filsafat. Yo, urusan pelatih, yeah.
Bon, ça c'est un groupe anarchiste hip-hop qui s'appelle Homicide. Et maintenant on va écouter peut-être l'autre chanson. c'est une chanson d'un un groupe un peu mainstream. Ça s'appelle Effect Rumakacha. Et voilà, c'est une chanson critique sur la torture et extrajudiciaire. Murder.
Ah, sur les meurtriers, les meurtres ou les meurtres.
Ouais, ça, en fait, ça fait un lien par un activiste qui s'appelle Mounir, qui s'était tué en 2004. Il s'était tué avec la gouverne, l'intelligence qui utilisait en commerce. C'était avec l'aide d'un commerce d'avions. Faire des vols et ça donnait un poison dans sa boisson, donc c'était effectivement tué dehors d'Indonésie
parce que pendant qu'il était dans un vol d'avion.
Ouais.
Okay.
Donc c'est un peu c'est un peu des possibilités de mourir pour faire sortir les choses, pour faire des soins, des voix.
Et juste, du coup, c'est le meurtre de qui, en fait? C'était un activiste ou c'était...
Ouais, c'était une personne qui s'était active dans l'ambiance des droits de l'homme. Je sais pas, c'était pas super militant, bah, c'était vraiment une voix des résistances.
Et puis qui était peut-être un peu connu ou...
Oui, ouais, c'est vraiment maintenant c'est un symbole de je sais pas de la gauche de je sais pas quoi donc.
Okay.
Teror mencari déclare officiellement et symboliquement libérer les forces de la joie. Musique.
Radio Sterni.
Bon.
Donc,
oui.
On a un peu remis le contexte, l'histoire de l'Indonésie, les luttes un peu autour séparatistes, la fin de la dictature.
Ouais, on a bon, peut-être on peut parler un peu maintenant de dans un contexte un peu plus local d'un endroit qui s'appelle bon, c'est une région en fait dans l'île de Java qui s'appelle Yogyakarta. C'est un district avec une autonomie. Bon, ça s'appelle autonomie, c'est un contexte politique particulier parce qu'il y a un sultan, c'est un sultanat en fait. Donc, à niveau de loi, par exemple, c'est un peu différent avec l'autre endroit en Indonésie. Et c'est un. Donc, à niveau de terrain, de terrain qui nous va intéresser parce que c'est une lutte. Des luttes que je vais parler, c'est une lutte pour la terre. Un sultan, il a un droit de prendre ce qu'il veut. Donc, si le sultan décidait pour. Il a besoin de quelques terrains, il peut justement dire bah, ça c'est à moi, donc je peux l'utiliser. Il y a quelques lois qui les garantissent. Entre sultan et gouvernement central indonésien, il y a un petit jouet. Donc il y a des jouets d'influence. Il y a deux qui veut prendre sa région. Donc il y a un peu de pression de le gouvernement central pour pouvoir avoir plus influence dans le territoire. Et sultan qui utilise tout le temps les cartes. Oh bon, on a une diversité culturelle parce que c'est un sultanat et c'est moi qui fais ça et nanana. Et il a gagné beaucoup de soutien en fait aussi de quelques groupes de la gauche. Même il y a quelques artistes qui s'appellent anarchistes qui des fois soutenaient des sultans que moi je trouve personnellement totalement dégueulasse. Et parce que c'est en lutte contre le gouvernement central et blablabla. Bah, finalement, ça n'a rien à voir avec la diversité culturelle. C'est juste un truc qu'il y a l'université à Yogyakarta et il y a des étudiants un peu de tous les partis d'Indonésie et aussi de ailleurs d'Indonésie, donc de dehors. Qui fait l'espace multiculturel. Et bon, donc c'est un jouet qui a gagné des fois soutien.
En fait, ils gagnent un soutien. Enfin, s'il y a des groupes anarchistes ou des trucs comme ça qui font des chansons en accord avec le sultan, c'est parce qu'il est indépendant du gouvernement ou c'est.
Ouais, c'est un symbole de résistance contre le gouvernement central qui s'est fasciste et blablabla. C'est pas effectivement, ça n'a rien à voir avec la réalité. Et en même temps, il y a des luttes des paysans, par exemple, là, qui je vais un peu montrer, qui se passent juste à côté. Et les gens qui le font sont juste hypocrites, en fait. Bah, ça change de fois à fois. Bah, c'est juste important de savoir que c'est un contexte particulier. Donc, il y a un sultan qui a beaucoup plus de pouvoir. Et bon. La communauté que je veux parler, ça s'appelle Kulomprogo, c'est une région en fait qui est touchée à côté de l'océan. C'est un côté du sud de Java et de sa district spécial.
Moi je sais quand j'ai entendu, je savais pas du tout comment ça s'écrivait. Du coup, juste, ouais, si vous voulez regarder où c'est ou n'importe, ça s'écrit K-U-L-O-N et P-R-O-G-O. Enfin, j'imagine pour trouver des informations sur internet, si on tape ça, on peut trouver.
Ouais, on peut laisser le lien après. Hein,
on laissera aussi ouais, les liens.
Et bon, la histoire de Kulomprogo, ça connectait avec du sable. C'est une histoire de.
Histoire de bac à sable.
Ouais, je n'ai pas compris. Bah.
Le bac à sable, c'est là où les enfants ils vont jouer, en fait.
Ouais, bon, c'est un peu plus large, c'est une côte entière. Et ça commence avec le sable parce que le temps, ça fait quelques générations. Le temps avant, le sable, c'était une malédiction pour les gens qui habitent en dessous de ce sable. Donc c'était connu comme la terre infertile, stérile. Il ne peut pas avoir des légumes. Il n'y a pas beaucoup de peu pousser.
Des choses qui poussent.
Des choses qui poussent. Et les gens de le coin, c'était connu comme le sel, comme... En fait, ça, en indonésien, ça utilise le mot chubung, que ça veut dire en personne pauvre, sel, sale.
Sale.
Sale, sans perspective. Il y a beaucoup de monde qui est sorti de la région pour travailler en fabrique, dans l'usine, pour travailler ailleurs, aussi dans sa temps de transmigration, il y a beaucoup de monde qui se bouge. Et c'est un peu caractéristique de sa région, il y a des gens qui sont vraiment, ça fait son vie vraiment collectivement. Donc il y a des... il y a des
rencontres.
Non, il y a des choses qui se font ensemble. Par exemple, chaque nuit, les gens qui se rejoignent à chez quelqu'un des voisins pour discuter ce qui se passait dans la journée, ce qui se passait dans le monde. Et tout ça, donc, et sa vie collective l'aidait de distribuer la connaissance comme de chercher la solution des problèmes qui étaient là-bas, par exemple de cultivation, et c'est jamais arrêté d'essayer de cultiver, donc ça commence un peu partout, de voir aussi des voisins un peu plus loin et chercher des solutions comme c'est possible de cultiver ça. Et pendant 30 ans, ça arrive pour avoir un peu plus que juste un sable. Il arrive que de savoir qu'il y a, en fait, il y a de l'eau claire, de l'eau douce. Juste en dessous du sable, et ça commence d'expérimenter avec pour faire des puits un peu plus large que normal pour pouvoir avoir de l'eau sur le terrain, parce qu'avant ça utilisait juste l'eau de pluie. Et aussi, il y a les gens qui expérimentaient que pour voir c'est quoi possible de pousser là-bas. Et ça arrive de savoir la relation entre noix coco et de chili. Et ça commence le temps de chili. Donc, finalement, Les paysans partageaient sa connaissance, partageaient dans la process collectif qui s'était déjà mis en place. Ils se trouvent la solution, ils ça cultivait, ça commence de cultiver chili sur le terrain. Et il faut justement faire une remarque, chili c'est comme une nourriture de base en Indonésie. C'est un sans chili, tu vas mourir, c'est sûr. Et à clous girofle et chili sont quoi, tu peux pas exister. Donc si tu peux cultiver un chili, ça donnait vraiment les moyens pour faire autosuffisant. Et ça commence la période pour les paysans en Kulon-Progo de prospérité, des sables, ça arrête d'être malédiction. Ça a fait un miracle parce que finalement, c'était pas justement que c'était possible de cultiver un chili. C'était aussi possible de cultiver chili à un moment où c'est un peu d'or de saison dans les autres endroits en Indonésie. Donc tu peux le vendre à un prix un peu plus haut. Et finalement, ça donnait vraiment autosuffisance à des paysans là-bas. Et c'était donc tout que c'était réussi à faire en Kulon-Progo, c'était fait pour les paysans même, toute l'infrastructure par exemple, tous les chemins, la roue, c'était fait pour les paysans même, toute l'infrastructure. Toutes les plantations, tout ça, c'était fait collectivement pour des paysans, sans aucune intervention gouvernementale. En fait, le gouvernement, n'importe ça quoi, du tout, jamais visité. Donc, c'était vraiment l'effet de travail des paysans. Et ça a donné aussi une fierté. À les paysans, mais bon, ça continue à sa prospérité, on peut dire, sa miracle, avec des sables miraculeux, quelques temps, pas loin, parce que d'un moment, ça découvrait en science étude, que c'était fait en 64, qui dit qu'il y a, ouais, qu'apparemment il y a de l'eau en dessous, des sables, mais le sable même, il y a beaucoup de fer dans le sable. Donc ça c'était un peu, ça tout c'était pas utilisé pendant beaucoup de ans. C'était trouvé pour le sultan dans un moment, en 2005, où le sultan décidait de faire un business avec sa fer.
Et en fait, l'étude, elle est réapparue, enfin, le sultan il a ressorti l'étude, peut-être parce que est-ce que ça a un lien avec le fait que les paysans ils aient trouvé comment faire pousser des choses et que. Parce que si la terre elle était maudite, peut-être qu'ils
ne
s'intéressaient pas. Et que...
Moi, je ne sais pas exactement comment ça arrive. Je pense que c'était juste un sultan qui a cherché des options pour faire de l'argent, des possibilités. Donc, ça trouvait, c'est quoi qu'on peut utiliser. Voilà. C'est du fer. Il y a un fer partout. Il y a tous les jours besoin de fer. Ça utilise partout. Ça utilise pour les grands économies chinoises. Il y a vraiment tous les jours, il y a besoin de plus de fer. Ça utilise aussi pour faire des ciments. Ça utilise, ça utilise beaucoup. Donc...
Ouais. Non, je me demandais si du coup on mettait une musique avant de parler du début du projet ou On peut parler, tu peux continuer à raconter.
Oui,
je voulais pas te.
Bah, bon, maintenant te j'ai un perdu.
Je suis désolée.
Bon, on met un petit musique donc. Okay. Ça l'autre fois, Crunch and Chaos.
Donc c'était Crunch Chaos.
Crunch and Chaos.
Ah, Crunch and Chaos.
Bon, on est à 2005 où le tout c'était découvert pour le sultan et où le sultan ça commence à être intéressé de la Taïwan. Donc à 2005 simplement qui se passait c'était le sultan a décidé de faire la mine. Et à faire la mine où? À Kulonprogo. Parce que c'était... available?
C'était disponible?
C'était disponible. Pour lui. Parce que c'était ça qu'il lui pensait. Donc, la première chose, c'était que le sultan n'a pas d'expérience minière. Donc, ça allait à chercher quelqu'un avec l'expérience. Il allait à Australie. À un commerce Kimberley Diamonds et ça fait un après ça fait un ça mélange avec ça fait sa propre corporation et ça mélange avec l'autre donc après pour fond, ça finit pour s'appelle Jogja Magas Iron. Et bon, avec ça commerce, il y a un plan de prendre 22 km de la plage, de côté, de la côte.
de la côte. 22 km pour 3 km
de largeur, enfin
de largeur.
Profondeur.
Ouais. Et donc c'est un terrain habitué pour les paysans de Colomprogo qui est fait du chili, qui est cultivé du chili. Et ça fait 10 000 personnes que ça va être affecté pour ce projet. Donc c'était mis pour la télé en 2005. Jusqu'à 2007, ça se passe rien avec ça. Et bah, ça commence un peu donner de angoisse à la paysan qui habite dans le coin parce que c'était vraiment ça veut dire c'est une expulsion, ça veut dire de rester avec rien et tout que ça réussit de faire avec leur propre main, ça finit en poubelle, ça finit. Donc ça commence de penser un peu de s'organiser et qu'on déjà a de l'habitude de faire la chose ensemble, de vivre sa vie en manière un peu plus collective. C'était pas loin, c'était pas super difficile pour organiser la première grande assemblée que c'était fait en 2007. Et dans cette assemblée où les délégats de tout la zone c'était présent et se décidait de construire une espèce d'organisation qui s'appelle PPLPKP qui c'est des amis des paysans côtiers et des amis et ça, peut-être quelques mots sur cette organisation. C'est une organisation horizontale et deux délégats sont justement, il n'y a pas de pouvoir, c'est justement le lien parce que ce n'est pas vraiment possible de faire une assemblée de 10 000 personnes. Donc il y a peut-être dans la structure de l'organisation, il y a des hiérarchies informelles que sera justement de vieux, des gens vieux qui donnent des conseils, le pas de pouvoir pour arrêter les gens de faire des choses si les gens ont envie de faire des choses. Par exemple, s'il y a raison pour être militant, pour se battre, pour faire des affrontements contre les flics, le vieux ne peut pas arrêter ça. Il n'y a pas de moyen. Donc c'est vraiment un truc plutôt culturel de sa hiérarchie.
En fait, les vieux, ils sont plus là pour donner leur savoir aussi. Enfin, c'est la hiérarchie, ouais. Elle est plus comme ça.
Ouais, c'est justement dans la culture de sa région, de respect à la conseil, à savoir de vieux. C'est respect. Et bah, à part de ça, il n'y a pas de hiérarchie dans la structure de sa organisation. Et bon, ils sont décidés de l'affaire et de se commencer de se battre contre ce projet. Donc, ils commencent de faire les choses qu'ils ont l'habitude de faire, donc faire des rituels, des guides de la nuit, de protéger le terrain, d'être là-bas, on peut concentrer sur la menace qui commence à venir. Un peu plus en plus. Et ça fait des manifs plus grands. La première manif s'était faite en 2007 où 5 000 de personnes attaquaient le bureau de mairie dans la régence, dans Vatès. Et il y a un affrontement avec les flics et les flics, ça, ça, finalement s'est cassé parce que c'était pas assez fort pour
contrer les...
pour bloquer l'accès pour extinguer la rage du peuple. et ça finalement de paysans, ça a devenu dans le bureau, ça occupait des bureaux et demandait, on parlait avec des mairies et la mairie s'est cachée et finalement la chose s'est restée comme ça. Bah, c'était, ouais, depuis ça c'était vraiment beaucoup d'affrontements, presque chaque manif ça terminait comme ça. Et aussi il y a beaucoup de répression qui vient avec ça. Il y a de l'autre moyen aussi, il y a des sabotages qui s'étaient faits, il y a des voitures d'investisseurs par exemple qui s'étaient cassées, il y a pas mal des actions qui s'étaient faites depuis ça et que c'est aussi assez chouette et assez intéressant que l'organisation depuis le début c'était conscience de pas laisser les autres forces politiques des ONG pour rentrer et récupérer sa lutte. Donc ça décidait consciencement que la lutte, il faut se laisser dans les mains des paysans. Et on n'a pas besoin de gens qui sont payés pour l'aider à les autres, pour venir et faire sa carrière avec sa lutte. Donc ça a prévenu de devenir des partis politiques et des ONG ne sont pas bienvenus non plus. Et peut-être pour dire quelque chose sur l'ONG, ça fait sorte de la situation en Indonésie que les ONG sont comme des parasites qui bloquaient l'évolution des mouvements. Par exemple, si vous imaginez, il y a dans un area, dans un sujet, il y a deux ou trois ONG qui fonctionnaient pour aider les gens, et sont partagés des communautés entre eux. Donc si moi je prends sa communauté, l'autre ONG va prendre l'autre, il n'y a pas de communication entre des communautés parce que il y a besoin justement de se communiquer entre la population et l'ONG qui va gérer tout la lutte. Et finalement, il n'y a pas de moyen de faire solidarité, il n'y a pas de moyen d'amplifier la lutte. Et finalement, toutes les communautés sont perdues parce que aussi, si ONG, il faut fonctionner dans la limite des lois. Si l'opposant avec qui se battre ne fonctionne pas avec la loi ou avoir le contrôle de loi, donc ça logiquement ça va perdre. Et ça se passe pas mal de fois. Moi je visitais quelques communautés que c'était vraiment loin d'être autosuffisant. Il n'y a pas de sentiment on peut arriver de nous stimuler de l'autre eux-mêmes, nous-mêmes. On peut pas faire rien. Il faut on appelle des ONG. Il faut nous parler des droits de l'homme. Et comme ça, c'est vraiment pas la même ambiance. Si tu allais à Kulon-Progo, tout son, il y a des forces là-bas. Il y a des forces, il y a de l'unité. C'était pas divisé, la communauté. Et sa conscience et sa habitude de faire de tout ensemble et de vie collective donnait vraiment la force de pouvoir répondre à la répression qui vient. Donc...
Ouais. Du coup, de la manière dont ils veulent et pas de manière légaliste tout le temps, quoi. Alors
non,
que quand tu as la présence d'une ONG, bah...
Non, là, en fait, il y a quelques moments que la communauté a décidé que la loi, ça ne sert pas le peuple. Donc, ça a construit la propre loi dans la région. Et par exemple, les gens de commerce ou les gens de gouvernement pour entrer à ce territoire. Mais ça marche pas vraiment, c'est pas un paradis. Ben, finalement, il y a beaucoup de conscience sur ça, sur les lois même. Mais après, il y a des gens qui a des espoirs pour pouvoir changer, ça sûrement, c'est pour pouvoir changer les lois, pour pouvoir habiter tranquillement là-bas. Il y a de ça aussi. Et finalement, c'est juste une communauté qui s'est trouvée dans la situation de crise et cherche des solutions. Et ça a déjà fait beaucoup de travaux pour avoir, voir des mécanismes qui les affecte, y a beaucoup de choses qui sont tous les jours là, de normes, de la manière de penser normale, on peut dire, je sais pas, normale. Bah, finalement, c'est tellement intéressant qui se passe là-bas, parce que il ne laisse pas de salut, de récupération de salut. Et les flics sont aussi conscients de ça, et les forces de l'ordre peuvent avoir peur des paysans, des fois. Et ça montre déjà dans des affrontements. Peut-être à un niveau de répression, je peux dire, il y a des fois des bandits payés qui s'étaient envoyés là-bas pour détruire des infrastructures d'organisation, des symboles de lutte, de la lutte. Par exemple, il y a une situation de 300 bandits payés qui s'étaient escortés par la police pour pouvoir venir jusqu'à des villages, et ils sont détruits d'un petit poste, de tous les petits postes qu'ils peuvent trouver avec des symboles de la lutte. Ils ça brûlé quelques bâtiments, et après c'était escorté par les flics pour sortir. Donc sa situation, c'était pris pas vraiment tranquillement. Il y a une réponse qui est venue aussi des paysans qui s'est mobilisé pour se battre contre ces bandits. Mais finalement, c'était aussi assez clair que c'est une embouche. Comment on dit ça?
Une embuscade, non, je sais pas.
Ouais, l'embuscade, si. Et que tout ce qui s'était fait de cette journée, ça va être utilisé pour criminaliser la résistance. Parce que c'était avec la présence des flics, que c'était justement là-bas pour attendre la réaction de population. Et finalement, c'est décidé pour s'ouvrir et chasser des bandits justement à le fond de leur territoire. Donc ça arrête là-bas. Il sort pas de sa territoire, il sort rester dans le autour du village, parce que c'était trop dangereux de les sauver. Et après, il y a un casus d'une personne qui s'était mise en prison. C'était une personne s'appelle Tukijo. Et c'était pris dans le 1er mai 2011. Sa casus, c'était fait parce qu'il y a des... Il y a des travailleurs d'un projet de pilote que je n'ai pas dit encore. Il y a un projet de pilote de la mine qui s'était fait dans le territoire. Et c'est un projet qui fait. Il y a conflit autour de ce projet tout le temps. Il y a des sabotages avant que c'était fait. Et finalement, c'est après de pas mal de process, de confrontations et tout ça, les paysans ont décidé qu'on ne laisse pas des travailleurs de traverser notre terrain. Et donc, les travailleurs de projet de pilote, il faut utiliser justement la roue qui va là-bas, et sont suivement passés pour le territoire des paysans. Donc ça énerve les paysans, et une fois, bon, ça passait plusieurs fois, une fois un de ces travailleurs s'était passé pour sa terrain et s'était chopé pour Tukijo juste pour le mettre dehors, même pas pour les casser la gueule, parce qu'il y a un groupe de gens que c'était un peu chaud pour faire ça, et finalement Tukijo permet pas pour les toucher, en même temps les expulser de le territoire. Et ce travailleur allait directement pour chercher des flics. Et c'était déjà planifié avant. Ils ont cherché des Tukijo et il l'a mis en prison, accusé pour je ne sais pas comment on dit en français, c'est comme kidnapper une personne pour les prendre sa liberté. Et ça prend 5 ans. Oui, séquestré, c'est pas exactement ça, un mot que c'est utilisé dans l'argument, c'est plus ou moins ça signifie ça.
Mais donc, c'était aussi parce que c'était un peu un symbole aussi de la lutte.
Oui, le Tukijo, c'était une personne que tous les jours parlait, fait d'entretien, c'était reconnu comme on voit de la lutte. Même c'était pas leader, mais c'est parce qu'il n'y a pas de leader dans sa lutte. Et, c'était reconnu pour le gouvernement et pour ça, ça a pris 5 ans de prison fermée. Donc ça, tous les jours dans la prison.
Donc oui, il est encore en prison du coup, là.
Ouais, maintenant il est encore en prison. Peut-être une petite pause avec avec la musique des homicides. Des homicides. Puritain.
Mampir, mari kita berjalan seragamu. Kurangkan sama alat terakhir. Satu kali lebih jangkau dari kaum atas musuh. aku tiga. Menunggu keagungan leher dengan mendukung nasi. Topakan napasi, wanita sekawi dengan bau tengi kerasi. Jika suci adalah wajib, kebenaran harus melenyap. Maka jawaban atas seluruh barang dan balok adalah pesin kain dan foto keca. Fasis yang baik adalah fasis yang mati. Fasis yang baik adalah fasis yang mati. Fasis yang baik adalah fasis yang mati. Tunggu di jalan yang sama saat kalian mengancam kami. Kami.
Religion is your personal business. You religious. Religion is your personal business. You religious. Religion is your personal
rasa buka dengan atau tanpa label agama, fasis tetaplah fasis. Begitu seragam penelisan yang mereka salin, pastikan semua berakhir kita langit yang hitam.
Parler de la répression un petit peu qui s'est passée.
Oui, donc Tukija reste en prison et il y a pas mal de choses qui se passaient à niveau de la lutte. Moi, je pense qu'il n'y a pas de besoin de faire toute la chronologie maintenant, et vous pouvez la lire, on va donner deux liens après. Et il y a une brochure qui existe en français, il y a une brochure qui existe en anglais, et sûrement il y a beaucoup de brochures qui existent en indonésien aussi. Peut-être sur la lutte aussi, la chose intéressante, c'est que des paysans travaille pas avec des ONG, travaille pas avec des partis politiques. Les uniques gens avec qui travaillent sont des anarchistes. Et ça, c'est un truc assez chouette en Indonésie, qu'il y a presque chaque ville où on a un collectif anarchiste, il y a les gens qui s'occupent de la lutte des locaux. Donc il y a les gens qui sortent de la vie pour chercher, ou même dans la vie, qui cherchent des liens avec la population et faire la transition et à expliquer un peu de le contexte, ou de montrer sa vision des mécanismes du monde, comment ça marche, et ils sont dans la lutte, sont bien mis dans la lutte.
Du coup c'est peut-être ça qui permet la communication avec l'extérieur. Anarchiste pour expliquer les luttes. Enfin, en fait, ça sert de relais aussi peut-être pour plusieurs luttes.
Il y a un raid que ça utilise. Si on parle de la lutte des paysans, on peut voir maintenant l'amplification, le process de grandir de sa lutte, parce que par exemple le paysan de Kulonprogo il pense pas justement que la lutte se termine au Kulonprogo. Ils sont conscients que c'est la lutte de tous les paysans indonésiens, en plus sont mis dans la lutte plus globale. Et Ça arrive la moitié des anarchistes qui sont là-bas. Et ils utilisent un peu la raid des anarchistes déjà existants. Donc, ça raid qui existe, qui fait le lien entre des endroits différents, donner la moyenne de communication entre les paysans eux-mêmes. Et par contre, en Kulomprogo, ça a déjà existé à un niveau un peu plus petit. Il y a déjà un lien qui s'était fait pour les paysans eux-mêmes. Pour aller à différents endroits, que c'est un problème assez similaire. Et c'est fait de lien. Donc, ça, de l'initiative de Kulomprogo, ça s'était fait en 2011. C'était fait une nouvelle formation qui s'appelle Forum Communication Massiera Catagraris, qui c'est un forum de la communication de population agricole, je sais pas comment, de paysans. Et ça connectait avec les autres endroits. Ça commence à rejoindre les paysans des autres endroits de conflits, pas forcément exactement même. Parce qu'il y a aussi des communautés qui résistent, par exemple des pauvres de la ville qui résistent des expulsions. Il y a des victimes d'une tragédie qui s'est passée en partie l'est de Java, que c'était un commerce minier qui cherchait du gaz. Et ça commence de vagues de boue qui sortent de la terre. Donc, c'est une espèce de volcan de boue qui commence à sortir, de boue chaude, qui commence à sortir de la terre et à manger et bouffer 14 villages. Et ça va arrêter jamais, en fait. C'est un processus thermique. Et c'est le commerce qui cherchait du gaz à la même endroit. Et qu'elle commence. Et le commerce, c'est un plus riche commerce d'Indonésie, c'est une famille qui s'appelle Bakri. Et elle te dit que bon, c'est pas nous, ça se passe naturellement, donc vous êtes dans la mer, c'est à vous. Et en fait, le fait qu'il y a beaucoup de monde expulsé de sa terrain pour raison de sécurité a donné la prise de terrain ça
chuté
et comme ça c'était plus facile pour acheter le terrain pour le commerce même, donc ça gagnait deux fois. Donc il y a un peu de lutte là-bas aussi de victimes pour être remboursé pour chercher un peu d'argent de sa tragédie. Et par exemple, il y a aussi des paysans qui luttent contre l'usine de ciment. Il y a des gens qui luttent contre la plantation de palmières, que c'est un vraiment problème plus large en Indonésie.
En fait, c'est beaucoup des gros problèmes écologiques, en fait. Sur le volcan qui il continue de couler depuis plusieurs années, non?
Oui, c'est plus que 7 ans maintenant qu'il sort sa boue. Et ça va arrêter jamais. Mm. C'est un grand trou, c'est vraiment... C'est l'image de la lune. Tu peux aller là-bas, tu peux aller en de la boue qui s'est déjà
tassé
et c'est 10 mètres avant la terre, c'était 10 mètres en bas.
En dessous, ouais.
Ouais, donc tu peux voir justement le toit de plus grand bâtiment de village et quelques arbres qui restent et le reste c'est juste désert. C'est vraiment la lune, c'est comme... Et bon, c'est vraiment une situation tragique.
Comment ça s'appelle cet endroit?
La commerce s'appelle Lapindo Brantas, la famille s'appelle Bakri, l'endroit s'appelle Sidoarjo Porong. C'est juste à côté de Surabaya, à Java l'Est. Mm. Et Et bon, et donc, des paysans qui se rejoignent avec les autres et ça fait des forums. C'est déjà deux fois la grande assemblée de ce forum de FKMA. Et sont fait voilà, des communiqués, ils sont fait des réunions. Et chaque fois, ça grandit. Donc maintenant, c'est 14 communautés différentes qui sont dans FKMA et qui se pensent qu'est-ce qu'on fait, comment monter un mouvement. Et moi, je trouve vraiment, vraiment intéressé, c'est une réponse bien. Il y a un site de web, vous pouvez chercher l'information, qui s'appelle selamatkanbumi.com. C'est un site où pas tous déjà traduit, il y a déjà des traductions en anglais des différents luttes, des nouvelles des luttes et de ça espèce de truc. Aussi sur la Coulombe Progo, il y a pas mal d'actions solidarité, il y a des actions qui viennent qui se fait en Australie et à Londres, il y a des soutiens qui viennent de ça. Peut-être un peu. Bon, peut-être on peut écouter un groupe punk indonésien qui était vraiment connu. Bah, et ça aussi, il y a un peu de division entre les gens qui disent qu'ils sont des trop étroits, sont pas chouettes et tout ça. Bah, même il y a une chanson sur une personne politiquement qui s'appelle Marcina. peut-être il y a personne ici qui veut lire la déclaration de FKMA, de le Forum des paysans. Et c'est la première déclaration après la première réunion qui s'était faite en décembre 2011. Que c'était fait à Gerbong-Revol aussi. C'est un centre social qui s'était fait à Kulomprogo. Parce qu'après, normalement, il y a des paysans qui se rejoignent chez des voisins de toute façon. Bah, ça, c'est construit un peu pour donner l'espace pour les jeunesses, pour faire la librairie. Et aussi, il y a un radio pirate qui marche là-bas. Donc, c'est un endroit assez pareil à centre social de l'autre endroit que vous connaissez. Et ça, c'est, un, bon, c'est la première déclaration. C'était le temps que FKMA s'était dit des communautés différentes. Bon, voilà.
Du coup, c'est du 20 et du 21 décembre 2011. Aujourd'hui, en tant que paysan et membre du groupe de plus de 10 régions différentes de toute l'île de Java, partageant des visions et des buts communs, nous agissons pour défendre nos droits sur nos espaces vitaux. La position collective que nous avons formulée est la suivante. 1. Nous sommes prêts à combattre l'injustice qui résulte des politiques de l'État et des entreprises. 2. Nous sommes prêts à défendre le droit du peuple à la terre, car la terre représente notre espace vital et la source de nos moyens de subsistance, et ceci n'est pas remplaçable. 3. Nous sommes prêts à résister aux législateurs criminels qui utilisent la loi comme un outil pour légitimer la destruction de bases sociales, économiques, culturelles et environnementales des populations. 4. Nous appelons les forces de la loi et les forces de l'ordre à mettre fin à toutes les formes d'intimidation, de répression et de cristallisation des paysans, de toute personne qui défendent leurs droits comme la forme la plus haute de souveraineté de la République indonésienne, car ces forces doivent servir les intérêts du peuple, pas ceux du capital. 5. Nous appelons à la solidarité, au soutien moral et à l'esprit de la lutte de tous les frères et sœurs qui partagent le même destin et les mêmes privatisations. Après, bon, c'est une liste d'endroits. Après, je peux peut-être lire les endroits, mais je ne suis pas sûre de prononcer correctement. Mais j'ai aussi Lampung. Non ? Peut-être tu peux lire.
Ouais, je peux lire. Donc, on est où ? On est. Nous appelons à la solidarité, au soutien moral, à l'esprit de la lutte, tous frères et sœurs qui partageons le même destin et les mêmes privations à Mesuji, Lampung, Takalar, Sulawesi Sud, Persilempat, Nusantara Nord, la côte de Kulomprogo, Yogyakarta, la côte de Kebumen, Java Central, les victimes de la vague debout de la Pindo à Porong, Java l'Est, les paysans à Padarinchang, à Banten, Java Ouest, Sedulur Sikep, dans les montagnes de Kedeng, Java Est, les côtes Vodgali, à Lumajang, Java Est, les côtes de Kalipuchang et Chimeral, à Chiamis, Java Ouest, et partout ailleurs où les personnes doivent faire face aux abus des entreprises. Jakarta, 22 décembre 2011. Donc, il y a l'autre, déjà l'autre déclaration qui est sortie depuis la dernière réunion qui s'était faite en février 7 ans, donc 2013. Et ça est disponible en version anglaise, c'était pas encore traduit, peut-être plus tard, va être traduit en français. Et c'est disponible la page qui s'est dédiquée pour la lutte indonésienne qui s'appelle Hidup Biasa au blogspot.com.
Peut-être je peux épeler. Alors c'est hidupbiasa.blogspot.com.
Ouais. Donc.
je sais pas s'il y a des choses. Ah bon, sur le projet de Kulonprogo, c'est la mine de fer, c'est pas justement là-bas qui le projet comme ça s'est dessiné. C'est en fait toute la côte de, sud de Java, qui maintenant rassemble un camp de bataille, un champ de bataille contre la mine de fer. Il y a des autres mines aussi qui provoquent la résistance pour les gens. Ça projette des mines pour la Sultan, c'est juste un premier projet dans le district qui va permettre à construire l'autre projet, comme par exemple il y a des autoroutes qui se planifient par entier côte sud de Java. Il y a aussi juste à côté, il y a des paysans qui se battent contre militaires qui prennent le territoire pour faire le camp militaire, et ils sont planifiés à faire une mine de fer eux-mêmes. Il y a des luttes partout, en fait. Il y a vraiment la possibilité de mouvements plus larges en Indonésie. Donc moi, je trouve assez intéressant, et je pense qu'il y a beaucoup qu'on peut apprendre des paysans au niveau de comprendre les mécanismes de lutte contre récupération de la lutte, et d'être vraiment solide, unifié et résister. Donc, il y a un message de soutien, l'appel de soutien. Donc si jamais il y a des actions de soutien en Europe, des paysans là-bas sont vraiment conscients, ça donne plus d'énergie. Donc ça, il y a un peu des actions qui sont déjà passées en Europe et en Indonésie même. Et il y a besoin d'encore plus de pression pour la solidarité. Moi, je pense que c'est tout. Hein. Je ne sais pas si on peut terminer avec une chanson qui sont des potes, un hip-hop de Timor-Leste, de ton là-bas. Et voilà, je pense qu'on va terminer cette audition. Oh, si vous voulez acheter...
Non, je voulais juste dire que c'était ouais, moi j'avais trouvé ça très intéressant, mais j'ai pas de questions parce que ça fait beaucoup de plein de choses d'informations. Moi, je connaissais rien du tout sur l'Indonésie, donc voilà.
Koi liudala na roman husi pulan ba fulan musu toba yakinan larane sai mamuk mutu kimaran nam lai hane san ai tahan mon fila banya kaduna mehi reklamar ad demo ba ya kalohan neona klok ba buat toma kirinya dalan atu te si hanoin lori kit futu kabun lori mori sema futu ir karak ne buan Gua ho malu de ho mama sirap marani ibun tolok ni nei ba ben ho na yati lum uku no lei kara bosok no lasu tuba tara bandu fila pa ifun e ma de am fatin de la le am ba noi Hutu mosla e sama nau kanesan asu ulum botan esan matene kerketak afera kakuta gliutasi yo no hola anin
ma lubuk bot barat la pun sirne dalang ulung kole anoin dalam lebe naruk la bot yu tamba salah ena na fatin yon ya fatin ulu neja on ya hanoin de tu rohan barohan aware we matan hotu maran manu fuik la kon klub ya raina kukun raisa fuik ema hedi an hei loron matan tau loron hei kala no sai o au ni fuan sai tanis o maxeya adukar hau ni liman kono hau monu o foti hau monu Fatin luan no dodok ne is mate is klamar tamis Haune fuan ve kanek ne kanek ne kanek no kanek no kanek no kanek
Radio-Sterni.qsdf.org